Question à travers le monde ce matin sur l'accès au vaccin contre le Covid-19.
Oui, car tout part, comme l'indique The Washington Post, de ce G20 qui s'est réuni en visioconférence, bien sûr, ce week-end à l'initiative de l'Arabie Saoudite et qui s'est clos sur une déclaration volontariste, certes, mais un peu convenue tout de même sur la nécessité des pays les plus riches de la planète de renforcer leur coopération pour s'assurer que les futurs vaccins, tant attendus, seront bien également disponibles dans la partie la plus démunie de notre globe. L'intention est bonne et elle est unanime. Enfin, à l'exception toutefois des États-Unis de Donald Trump qui, rappelons-le, rappelle le Washington Post, n'ont pas rejoint l'initiative internationale COVAX pour financer justement l'achat et la distribution de vaccins dans les pays qui ne pourront pas les acheter et les distribuer eux-mêmes. Mais au-delà de ces belles intentions, donc il n'y a pas grand-chose de concret qui se mette en place. Nous sommes en train de prendre du retard. Attention, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la chancelière allemande Angela Merkel. Elle est citée par la BBC dans son message, justement, au G20, alors que les pays les plus développés évoquent avec précision leur date de mise sur le marché du vaccin et précisent les contours de leur plan de vaccination de masse. On va y revenir. Du côté de l'initiative COVAX, eh bien, les négociations entre pays participants n'ont pas encore commencé. Il est grand temps de s'en inquiéter, alertée hier Angela Merkel. Pour tenter de la rassurer et de nous rassurer, nous, au passage, on lira dans le Straits Times de Singapour que l'UNICEF annonce avoir précommandé 2 milliards de vaccins anti-Covid-19, des vaccins qui seront envoyés tout au long de l'année 2021, là où il y en aura le plus besoin à travers le globe, dans une opération mammouth, selon le terme choisi par la communication de l'agence onusienne. L'UNICEF, premier acheteur de vaccins au monde, sera le bras armé de la stratégie COVAX sur le terrain. Elle a passé des accords, nous dit-elle, avec 350 compagnies aériennes dans le monde et ciblera en priorité des pays comme le Burundi, l'Afghanistan ou le Yémen, entre autres.
Non, voilà donc du concret promis pour l'an prochain. Mais dans les pays producteurs de vaccins, on se demande déjà si on pourra se faire vacciner pour Noël.
Oui, alors c'est encore un peu présomptueux, mais en théorie, selon The Guardian, les États-Unis, l'Allemagne et le Royaume-Uni pourraient commencer à vacciner leur population dès ce mois de décembre. Dans les starting blocks, selon le Sunday Telegraph, l'autorité sanitaire britannique qui se dit prête à valider la mise sur le marché du vaccin Pfizer-BioNTech dès le 1er décembre, coiffant au passage sur le poteau les Américains qui, eux, visent la date du 11 décembre. En Espagne, El País détaille le plan de Pedro Sanchez pour faire vacciner. C'est en tout cas l'ambition du gouvernement espagnol. Un quart de la population dans 13 000 centres de vaccination au premier semestre 2021. La Russie et la Chine ne sont pas pour le moment entrées dans ce jeu de la surenchère, hein, mais elles se tiennent prêtes dans les limites de leurs propres frontières et de leur propre population, mais aussi bien au-delà, et ça rejoint le sujet dont nous parlions au départ. Moscou et Pékin ont très bien compris, analyse Der Spiegel en Allemagne, que ceux qui contrôleront la distribution de vaccins contrôleront le monde dans les années qui viennent. La Chine a intégré des pays comme le Brésil, par exemple, aux tests cliniques de son vaccin. La Russie en a fait autant avec l'Inde, pour ne citer qu'elle, avec à chaque fois des promesses de priorité sur la mise à disposition du vaccin une fois homologué. Cela crée de nouveaux liens de coopération entre États, mais surtout des liens de dépendance géopolitique entre ces pays, et ça pourrait bien, surtout, redéfinir l'équilibre des relations internationales dans la décennie qui s'ouvre, selon l'analyse donc de Der Spiegel.
Et puis parmi les événements du week-end passé sur la planète, vous revenez également sur ce mouvement de contestation qui s'est levé au Guatemala, Camille.
Deux jours déjà de manifestations dans les principales villes du pays, c'est ce que nous dit le quotidien mexicain El Universal, et des foules guatémaltèques qui demandent rien de moins que la démission de leur président Alejandro Gianmattei. À l'origine de leur colère, il y a ce projet de budget national pour l'an prochain, un budget comme jamais le petit pays d'Amérique centrale n'en avait connu, avec une dette qui se creuse dangereusement, et pourtant des réductions drastiques pour les fonds alloués aux services publics, éducation et santé. En fait, explique El País America, cette manne de 10 milliards d'euros profiterait en l'état très largement au secteur privé selon des critères de répartition qui sont très mal définis. Les Guatémaltèques apparemment ne font pas du tout confiance à leur élite pour faire bon usage de tout cet argent et ils se méfient bien sûr surtout de la corruption, du détournement de fonds publics qui siphonnent les caisses de l'État de manière encore plus forte, nous dit-on, depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Dans le journal local El Periódico, on revient sur ces manifestations pacifiques de samedi et dimanche qui se sont tout de même terminées en une intense répression policière. Samedi soir, on l'a lu dans pas mal de titres de la presse internationale, on a vu ces images du bâtiment du Parlement guatémaltèque dans la capitale qui a été incendié. Ça a justifié l'intervention très violente des forces de l'ordre. Pour El Periódico, il n'y a guère de doute, ce sont des agents de l'État déguisés en casseurs qui ont fait le coup, qui ont mis le feu donc au Parlement pour affaiblir et discréditer la contestation. Alors ça n'a pas marché. Le lendemain, ils étaient encore plus nombreux dans les rues à manifester et toujours déterminés à refuser la violence. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini de parler du Guatemala cette semaine.